Je sais pas vous, mais il y a quelque chose qui m'a dérangée ces dernières semaines sur la manière dont on traitait la notion d'inceste dans le débat public. Le choix sémantique me perturbait. J'avais l'impression qu'on mélangeait un peu tout et je me suis dit qu'il était temps de faire le point. Parce que oui, après avoir entendu les femmes, on arrive à la séquence qui concerne les enfants. Alors, vous avez certainement dû entendre parler de l'affaire d'Olivier Duhamel, sa belle-fille, Camille Kouchner, qui l'accuse d'avoir violé son frère jumeau lorsqu'ils avaient 13 ans, dans son livre La Familia Grande, paru aux éditions du Seuil, en ses débuts de cette fantastique nouvelle année. L'inceste est de retour sous les feux des projecteurs. Et on dirait qu'à chaque affaire, on redécouvre le phénomène, comme c'est constitué une nouveauté. C'est dingue. Pourtant, c'est loin d'être le premier témoignage, c'est loin d'être la première fois qu'on se dit arriver à un tournant et que le silence de l'inceste est enfin terminé. Bon, il y a effectivement quelque chose d'assez incroyable qui est en train d'arriver. Et ce, merci les réseaux sociaux. Le hashtag MeToo Inceste fait apparaître l'ampleur du phénomène dans l'opinion publique, qui, elle, va enfin pouvoir admettre que c'est un problème collectif. Et ça, c'est super important. Les chiffres parlent pas à tout le monde, je l'entends. Mais il a une manière très simple de remédier à ça. Rappelez-vous votre classe de CM2. Disons que vous étiez 30 élèves. Eh bien, 3 d'entre eux étaient en train de subir ou allaient subir des crimes incestueux. Ouais, je peux pas m'empêcher maintenant dans les lieux publics de compter tout le temps. C'est énorme. C'est énorme, bon sang. Et puis, en faisant quelques recherches, j'ai un peu compris ce qui pesait dessus et qui empêchait que collectivement et concrètement, on puisse répondre à ça. Alors déjà, parce qu'on en fait un tabou, parce que la société en fait un tabou. Elle empêche dans un premier temps les victimes de voir qu'elles ne sont pas seules, et surtout, elle les enferme dans un silence forcé. Et on retrouve ce « je ne pouvais pas parler » absolument partout. Parce que déjà, pour elle, c'est pas simple de la libérer, cette foutue parole. La psychiatre et spécialiste Muriel Salmona parle de cette dissociation cérébrale qui s'opère pendant le crime incestueux. Le cerveau disjoncte, en fait, littéralement. Il empêche l'amygdale, qui met en place sa réponse émotionnelle, sa surproduction d'hormones de stress et d'adrénaline qui est en train de se produire, et les émotions sont complètement déconnectées. Du coup, t'as peur de te tromper, tu manques de certitude, car dans ton propre esprit, c'est flou. T'as plus de modèle et t'es complètement paumé. Comme l'anthropologue Dorothy Ducey l'expliquait, tu vis avec une confusion gigantesque qui te dévase de l'intérieur. Par cette construction de traviole, parce que rappelons que c'est quand même quand t'es gamin que tu te construis, tu galères à comprendre ce que tu ressens et tu confonds le bien avec le mal. Et puis, il y a tout le silence qui entoure l'inceste qui est bien construit. Et malgré les stratégies différentes, les témoignages se ressemblent. Il peut avoir ton modèle, l'adulte de la maison, celui en qui t'as confiance, qui sait mais qui se tait. Parce que oui, il est difficile d'imaginer que d'autres il n'y avait pas. Et qui ensuite la parole libérée va demander de ne plus parler de ça. Ou va euphémiser quand il s'agit du grand-père. Ou en silence imposé par celui qui te violente, en fait. On évoque le secret. On te fait peser une énorme culpabilité. Parce qu'après tout, si t'envoies ton assaillant en prison, tu te sentiras fautif, non? Et puis la honte qui sera ensuite propagée dans la sacrée sainte famille. T'imagines? Pour un truc qui est complètement tabou dans notre société? L'auteur, Louise Armstrong, soulignait qu'un vrai tabou portait en lui une vraie dissuasion. Et là, c'est un crime ordinaire. Les agresseurs ne sont pas dissuadés. Le tabou de l'inceste réside en réalité dans la construction sociale qui en a été faite. Qu'au départ, en France, le Code civil de 1804 établit que la famille est le cadre sanctuaire des mœurs, la cellule souche de la société avec le père à la tête, dans lequel l'État ne doit pas rentrer. Et puis, à partir du milieu du 19e siècle, on commence à ne plus nommer ce crime. Et on est toujours un peu là-dedans. L'actualité a certes obligé les politiques à réagir, mais on les entend très peu s'exprimer là-dessus. Et c'est donc bien le signe que l'inceste relève encore d'un sujet d'ordre privé. Ou alors, on va avoir M. Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice, qui nous parle de liberté individuelle. C'est un tabou qui a également une réelle portée dans nos cercles sociaux. Les gens ne veulent pas en parler, en fait. Ça les gêne, c'est dur pour eux, même d'entendre deux mots sur le sujet. Dorothy Ducey expliquait qu'elle avait dû s'adapter à ses audiences, faire en sorte que ce ne soit pas insupportable pour le public. Parce que ça l'est automatiquement, en fait, de parler d'inceste. Et on retrouve cette volonté d'atténuer la réalité dans les médias également. De la même manière qu'on pouvait lire « Drame familial » lorsqu'on parlait de féminicide. Là, pour l'inceste, c'est rare de lire crime incestueux. On utilise abus sexuels en masse, alors qu'ils ne constituent même pas une catégorie judiciaire. Ou alors, on va lire fait incestueux, acte incestueux, etc. en ce qui concerne l'affaire Duhamel. Nous avons une responsabilité, en tant que journalistes, dans le choix de nos mots, et donc dans notre manière d'écrire le réel. Euphémiser ne donne aucune visibilité au phénomène. Et puis, il y a tout un tas de représentations qui ont eu, et ont toujours, une empreinte majeure dans notre perception de l'inceste en France. Tout au long du XXe siècle, on considère l'enfant comme pervers, vicieux et menteur. Du coup, on le croit pas. On refuse presque systématiquement de l'écouter lors du procès, en particulier quand il a moins de 6 ans. La chanteuse Barbara évoquait cette problématique en disant que les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire et on leur reproche d'affabuler. C'est ce qui s'est passé lors du procès Outreau. Les victimes expliquent qu'elles n'ont jamais menti, mais ce qu'on retient, ce sont les acquittés. Que c'est terrible un adulte accusé à tort. Que c'est terrible ce qu'il a failli se produire et qu'il faut se méfier de la parole des enfants. De manière empirique, ensuite, on a pu constater une diminution des condamnations. Les masculinistes, ceux qui craignent une féminisation de la société, ont joué un rôle crucial là-dedans. Dans les années 80, Richard Garner avance une théorie qu'il appelle le syndrome d'aliénation parentale et qui aura une portée considérable en France. Selon lui, le plus souvent, un enfant qui dit être victime de violences sexuelles est en réalité victime de manipulation de la part de sa mère qui voudrait se venger du père. Et là, bim, on repart sur le fantasme de la femme hystérique, mythomane, qui cherche le malheur des hommes. Les masculinistes sont obsédés par la figure du père comme toute puissante, qu'il ne faut surtout pas essayer d'étrôner, et qui dispose du corps des autres selon son bon vouloir. Et alors que ce prétendu syndrome n'a été reconnu par aucune autorité scientifique, et que le consensus soulignait le manque de fiabilité, on retrouve encore aujourd'hui, par exemple, la sénatrice Laurence Rossignol, qui interpellait, fin 2017, la garde des Sceaux, pour qu'on le prenne en compte lors des procès. Et puis, il y a les mythes qui entourent l'inceste, cette fameuse histoire d'amour qui dérange. Dominique Vrignot, juge pour enfants au tribunal de grande instance, publie un essai, Les contes de l'inceste ordinaire, où il démontre que les relations en termes d'échange n'ont jamais lieu avec l'inceste, parce que l'enfant est complètement absorbé par le désir de l'autre. Il n'existe pas non plus dans les témoignages, où je n'ai rien vu de tel en tout cas, des jumeaux et des cousins du même âge. Il y a toujours une asymétrie des positions et donc toujours un rapport d'autorité. L'inceste, ce n'est jamais consenti. C'est toujours une histoire de domination. Et il y a aussi le mythe des incesteurs pédophiles. Tel que défini en psychiatrie, la pédophilie reste infiniment minoritaire chez les coupables d'actes pédocriminels. Le médecin allemand Klaus Michael Bayer révèle, grâce à une enquête de 2005, que 60% des hommes qui ont violé un enfant ne sont pas pédophiles. Les enfants ne sont pas leur préférence. Ce n'est pas une maladie. Ce sont simplement les proies les plus faciles. Ça ne parle pas. Ça se laisse faire. Ça obéit. Quelle victime plus facile pour un homme que ses propres enfants? Pour un garçon que ses frères et sœurs? Et pourtant, encore aujourd'hui, on mélange tout. Ce n'est pas un monstre avide de jeunes enfants qui vit en marge de la société. Il ne porte pas les stigmates sur lui. C'est monsieur tout le monde. Et ça, il serait temps de l'admettre.